Alors, dans cette partie de notre culte, nous étudions un passage de la Bible. Alors, si vous nous rendez visite ce matin, on vous embarque avec nous dans l'étude du livre de l'Ecclésiaste. C'est un petit livre de la Bible au milieu. C'est un peu le livre le plus philosophique de la Bible. Et ça fait plusieurs semaines que nous l'étudions et nous arrivons ce matin à la fin du livre. Et la fin du livre de l'Ecclésiaste parle de la fin de vie. Le passage que nous allons lire évoque la vieillesse, mais s'adresse à la jeunesse. Donc ça nous concerne tous, jeunes et vieux, comme nous avons chanté tout à l'heure. Et en effet, tous les philosophes sont d'accord. Ils vous diraient tous que si vous voulez trouver le sens de la vie, si vous cherchez le sens de la vie, si vous cherchez une sagesse pour vivre, eh bien ça passe par une réflexion sur la mort. Et donc écoutez ces passages, un beau passage à la fin du livre de l'Ecclésiaste. Donc en chapitre 11, à partir du verset 7. Donc Ecclésiaste, chapitre 11, verset 7, jusqu'à la fin du livre. Je vous fais la lecture. La lumière est douce, il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouisse pendant toutes ces années, et qui pense aux jours des ténèbres, qui seront nombreux, car tout ce qui arrivera est vanité. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme il était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Et une remarque de conclusion de ce livre, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec doigture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses. On ne finira pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Est-ce que vous aimez les énigmes? J'ai trouvé celle-ci sur Internet, que je vous soumets. Une voiture fonce, tout feu éteint, et arrive dans un village, alors qu'il y a une panne de courant. Aucun lampadaire est donc allumé. Un homme, tout de noir vêtu, et on va dire qu'il a un masque noir aussi, ces temps-ci, un homme tout de noir vêtu, est en train de traverser un passage piéton. Le conducteur pile et s'arrête jusqu'à temps pour ne pas l'écraser. Comment a-t-il su de s'arrêter ? Tout feu éteint dans sa voiture, tous les lampadaires ne marchent pas, l'homme est vêtu en noir, mais il s'arrête pour ne pas l'écraser. Ça, c'est une énigme typique. Et la réponse, peut-être vous connaissez cette énigme du chauffard, c'est que ça se déroule en plein jour. Ça, on l'a pas précisé. L'Ecclésiaste aussi aime des énigmes. Le mot ecclésiaste, ça veut dire rassembleur, il rassemble des vérités, c'est comme un prof de philo, c'est un maître, il veut nous faire réfléchir. Et c'est un essence de ce mot vanité qui revient souvent dans ce livre, Vanité des vanités, qui peut aussi être traduit énigme. La vie est une énigme, énigme des énigmes. Telle est la vie. Et ce livre nous propose à tous une énigme, à réfléchir sur une énigme, et pas des moindres. On va dire, c'est même la grande énigme de la vie. Ce serait la folie de ne pas y réfléchir, de ne pas chercher à trouver la réponse. Et voici la grande énigme de l'Ecclésiaste. Pour lui, si tout est poussière, si tout retourne à la poussière, si tout est éphémère, si tout est poussière et retourne à la poussière, à quoi bon ? À quoi bon de vivre ? À quoi bon de travailler ? À quoi bon d'aimer ? À quoi bon de se lever un dimanche matin pour venir à l'église ? À quoi bon de se lever un lundi matin pour aller au travail ? Si tout est éphémère et tout est poussière et tout retourne à la poussière, à quoi bon ? Est-ce qu'il vaut mieux être un terroriste ? Tout est éphémère, tout est poussière. À quoi bon ? Quel est le sens de la vie ? Ça, c'est l'énigme de l'Ecclésiaste. Ou comme on avait dit, c'est le célèbre écrivain russe Tolstoï qui le posait de cette manière. Y a-t-il un sens à la vie qui ne serait pas détruit par la mort qui m'attend inévitablement ? Y a-t-il un sens à la vie qui ne sera pas détruit par la mort qui m'attend inévitablement ? Et pour lui, tellement il prenait cette question au sérieux, et tellement pendant une période de sa vie, il n'avait pas de réponse, que voilà ce qu'il dit dans son témoignage, il dit... Pendant cette période de ma vie, j'ai enlevé une corde de ma chambre où je me déshabillais tout seul, tous les soirs, de peur de me pendre à la poutre entre les placards, et j'ai renoncé à prendre un fusil avec moi lors de voyages de chasse pour ne pas être tenté de finir ma vie de façon trop facile. Parce que tellement il prenait cette question à cœur et tellement il n'avait pas une bonne réponse. Alors heureusement, la plupart d'entre nous ne prenons pas la question au sérieux à ce point, mais il mérite d'être posé. Et des fois, on s'empêche de le poser. On passe à l'image suivante sur Instagram. On passe à la chaîne suivante sur la télé pour ne pas trop y réfléchir. Mais tous les philosophes et la Bible diraient aussi, c'est une question, c'est une énigme qui mérite d'être résolue. Et Dieu est allé jusqu'à nous donner ce livre de l'Ecclésiaste, cette bête noire de la Bible, comme on dit, parce qu'il y a des phrases étonnantes, pour nous obliger à réfléchir à la question et trouver une réponse. Quel sens a la vie ? À quoi bon tout ça ? Et dans sa conclusion, nous avons vu déjà plein de pistes de réponses, mais dans sa conclusion, l'Ecclésiaste va nous donner une piste pour résoudre l'énigme de la vie. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans ce mot de la fin, qui parle de la fin de vie. L'Ecclésiaste nous encourage à prendre la seule chose certaine de notre avenir, c'est-à-dire notre mort, et à partir de cette certitude, remonter le temps et voir comment intégrer cette réalité avec tout ce qu'on vit, avec les joies, les peines. Autrement dit, on est prêt à vivre quand on est prêt à mourir. Ça va être le message de l'Ecclésiaste ce matin. Et pour nous aider à faire cela, à trouver la réponse à l'énigme, dans ces passages, nous allons voir trois appels qu'il adresse aux jeunes et aux vieux. Réjouis-toi, souviens-toi et prépare-toi. J'aimerais voir ces trois choses avec vous ce matin. Réjouis-toi. Dans les premiers versets que nous avons lus, à partir du verset 7, la jeunesse et la vieillesse sont comparées au jour et à la nuit, à l'aurore et au crépuscule. L'image commence en verset 7. La lumière est douce, était agréable aux yeux de voir le soleil. Et pour lui, ça va représenter la jeunesse de la vie. Donc il dit en verset 8, si donc un homme vit beaucoup d'années, qui se réjouisse pendant toutes ces années, mais qui pense aussi aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Donc les jours de ténèbres, c'est la suite, c'est la vieillesse. Et puis, là, le grand appel en chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Alors, il y a une bonne nouvelle ce matin, c'est que la définition de la jeunesse dans la Bible est plus souple que la nôtre. Dans la Bible, on peut être jeune à 40, 50, 60 ans et plus. Donc, si vous êtes là, déjà, la Bible vous traite de jeune. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Et alors, c'est vrai que l'Ecclésiaste répète souvent à travers ce livre, tout est vanité. C'est-à-dire, tout est incompréhensible, tout est énigme souvent dans la vie. Mais cela ne veut pas dire pour lui que tout est nul. lui-même reconnaît qu'il y a tellement de belles et de bonnes choses dans la vie. Et il nous appelle à vivre pleinement, joyeusement. Bien sûr, c'est plus facile quand on a le temps, la santé, la disponibilité, la faculté mentale, toutes ces choses qu'on va associer à la jeunesse, mais c'est pour nous tous. Réjouis-toi de la vie. Même verset, la suite du verset 1 au chapitre 12 est encore plus étonnant. Il dit, jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Moi, en tant que pasteur, j'ai l'impression de passer mon temps à dire le contraire. Ne suis pas les regards de ton cœur, attention. Mais l'Ecclésiaste le dit autrement. Et on va être d'accord. Il dit à la jeunesse, marche dans les voies de ton cœur, suis les regards de tes yeux, mais sache que Dieu, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce qui nous aide à réfléchir, nous oriente pour choisir le bien et le mal. Mais des fois, c'est vrai qu'on se focalise sur les interdictions de Dieu dans la Bible. Mais on oublie tout ce qu'il a donné pour notre joie, pour notre bien-être. Oui, c'est vrai qu'il dit non à l'adultère. Mais il dit oui. Il dit oui au mariage, il dit oui à la nature, il dit oui à la musique, il dit oui au bon repas, il dit oui à l'art, il dit oui au sport, toutes ces choses que lui-même a créées pour notre bien. Réjouis-toi, jeunesse, réjouis-toi de ces choses. Et Dieu peut aussi nous appeler en jugement, en ce moment, pour le mal que nous avons fait, mais de ne pas s'être réjoui des bonnes choses qu'il nous a données, de ne pas être reconnaissant pour les bonnes choses qu'il nous a données. Par exemple, si mon enfant vole un vélo pour s'en amuser, oui, peut-être il va s'amuser, mais moi je vais l'appeler en jugement, parce qu'il a volé le vélo. Mais aussi, si je lui donne un vélo de qualité pour son anniversaire, et qu'il ne le touche jamais, qu'il n'en prend pas soin, qu'il le met à la poubelle, là aussi je risque de ne pas être content et l'appeler. On disait, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, Dieu peut nous appeler en jugement pour différentes raisons. Et ici l'appel c'est, réjouis-toi de ta jeunesse, de tout ce que Dieu nous a donné à vivre. Alors quelques conseils pour les jeunes ce matin. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes tous jeunes, donc ces conseils s'appliquent à tous. Ces versets nous appelle à ne pas gaspiller notre jeunesse. Vous savez, il y a une énergie, il y a une disponibilité, il y a une joie de vivre. Juste avant, dans le même chapitre, plutôt dans le verset 4, par exemple, il avait dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » L'idée là, c'est si on attend le moment idéal pour faire quelque chose, en général, on ne va pas le faire, parce que et le moment idéal, lorsque tout tombe bien, c'est rare dans cette vie. Donc, si on regarde qu'il n'y ait aucun nuage ou aucun vent pour sortir, on va être bloqué. Et donc, c'est un appel à ne pas trop essayer de maîtriser l'avenir qui appartient à Dieu seul, mais d'aller. Il y avait un autre verset qu'on aime dans l'Ecclésiaste, c'est, il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute sa force. Et cet appel de se donner à fond, dans les bonnes choses, dans les activités auxquelles Dieu nous appelle. Ne pas gaspiller sa jeunesse. Et une chose qu'on est appelé à faire, ne pas remettre, qui ressort dans ce texte, c'est une démarche spirituelle avec Dieu. Et de décider quelle place il aura dans notre vie, décider à qui il est, comment il ressemble, comment le connaître. Ça, la jeunesse, c'est le moment de le faire. Et ensuite, de marcher avec lui. Une autre chose, donc, ça c'est le premier appel de ce passage, ne pas gaspiller la jeunesse. Ce sont des belles années que Dieu nous donne. Après, l'autre appel, c'est ne pas idolâtrer la jeunesse. Le verset suivant dit, « Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est l'aurore sans vanité. » Bannis le chagrin et éloigne le mal de ton corps, si c'est pour s'agripper inutilement à une jeunesse. Vous connaissez tout le chagrin et le mal qu'on se donne à l'idée de vieillir. Regardez tout ce que notre société propose au corps pour ralentir la vieillesse, avec des produits, des opérations qui peuvent être néfastes, qui peuvent faire du mal au corps. Et l'Ecclésiaste nous déconseille cette recherche naïve d'une jeunesse éternelle du corps et des plaisirs passagers, mais avoir aussi une maturité de regarder la vie, l'avenir en face. Et ça va être une piste, une clé pour nous pour résoudre cette énigme de la vie. Oui, réjouis-toi de jeune homme, réjouis-toi. Mais rappelle-toi que les joies de ce monde, les joies de la jeunesse, seront mieux appréciées si vous rappelez qu'elles sont passagères, qu'elles ne sont pas la raison ultime de vivre. C'est le premier appel de notre texte. Réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'elle n'est pas ultime. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Alors, on passe à l'appel suivant. Souviens-toi donc de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Réjouis-toi. Fais ce qui te plaît, dans un sens. Mais c'est protégé, cet appel est protégé par l'appel suivant. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Et après, suit des versets, des très beaux versets, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que des nuages reviennent après la pluie. Donc, encore cette image de l'aurore et du crépuscule qui revient. Et puis dans les versets suivants, je ne sais pas si vous avez suivi, ça vous a peut-être intrigué, des versets assez poétiques, mais il parle de plusieurs choses, plein d'images, où en fait ces images décrivent le processus de vieillissement et de mort. Alors la mort est une chose terrible, atroce, mais ici il le décrit d'une manière noble, d'une manière belle, avec plein d'images, notamment une maison qui se délabrée, ou les choses dans la nature. Donc, par exemple, il dit, avant que les gardiens de la maison tremblent, les hommes forts se courbent, ça pourrait appeler les os du corps qui finissent par se courber. Après, il parle de celles qui moulent, s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Ça pourrait évoquer les dents qui ont du mal à mâcher, à moudre. Ensuite, ceux qui regardent par les fenêtres, pense aux yeux qui décline. J'ai un petit aveu à faire, c'est que cette semaine, j'ai trouvé que ma lecture matinale de la Bible était un peu plus pénible que d'habitude. Alors j'ai essayé, juste tout seul, des lunettes de lecture. Mais à ce moment, ma petite fille entre dans mon bureau et dit « Papa, non !» Selon ses paroles, ça te fait un vieux mémé. Voilà, à voir si... Mais ça arrive, voilà, les yeux. L'amandier fleurit, ça évoque le cheveu blanc. Lorsqu'un amandier fleurit, c'est tout blanc. Et puis on arrive au verset 8 et 9, où c'est vraiment la fin. Le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise, le seau se rompt sur la source et la roue se casse sur la citerne. C'est une image de puits qui ne fonctionne plus. Dans la Bible, l'eau, la pluie, souvent symbole de vie. Et là, éventuellement, ici, c'est des organes vitaux qui ne fonctionnent plus. Et on termine avec « tout qui retourne à la poussière », cette phrase connue de la Bible. Hein, « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, telle est la mort. » Alors, cet avenir certain, pour nous tous, est triste, mais pour l'Ecclésiaste, c'est utile d'y penser. Pour l'Ecclésiaste, c'est presque une bonne nouvelle que nous allons mourir, parce que ça nous oblige à réfléchir sur la vie, le sens de la vie. Il avait déjà dit dans un autre chapitre, chapitre 7, verset 2, il avait dit cette phrase étonnante, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » C'est ça qu'il veut qu'on prenne la vie à cœur. Bien sûr, non seulement pour prendre la chose à cœur, réfléchir à la vie, mais ici, l'appel, c'est de penser à ces choses pour nous souvenir de notre Créateur, pendant qu'il est temps, dans les jours de notre jeunesse. C'est quoi ce souvenir de son Créateur? C'est déjà reconnaître que nous sommes créatures et pas créateurs. Et il n'y a rien comme le processus de vieillissement et de mort qui rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants, nous sommes créatures. Et plus tôt dans la vie qu'on a compris ça, mieux c'est pour prendre des décisions sages. Comme dit Jacques Ellul, c'était un philosophe, un professeur protestant à Bordeaux, il dit ceci, « Tous les malheurs, et j'insiste, tous les malheurs du monde viennent de ce qu'un homme se prend pour le Créateur. » Alors ici, souviens-toi de ton Créateur, pas de ce que tu es Créateur. Et puis, se souvenir de son créateur, c'est pas juste se rappeler de Dieu comme on se rappelle des anniversaires. Ah tiens, il faut que j'y pense une fois dans l'année. Je me souviens de Dieu et puis je passe à autre chose. Non, se souvenir de son créateur, c'est ce qu'on a vu ce matin, finalement, dans la démarche de Tina, qu'on a pu tous apprécier. C'est ça, se souvenir de son créateur pendant les jours de sa jeunesse. Le baptême, cette démarche de Tina, montrait ce que c'est. C'est de mettre Dieu en premier, c'est de se dire, il m'a créé pour une raison, je veux aligner ma vie à cette raison, je veux la suivre, je veux écouter sa voix, ses conseils. C'est ça ce souvenir de notre Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Alors, le défi, c'est que c'est vrai que pendant la jeunesse, c'est pas forcément facile à faire de se souvenir de son Créateur, de se mettre en règle avec lui, parce que c'est l'âge où on n'en a pas vraiment besoin. Tout va bien, on se gère, on se sent fort. Et donc, se souvenir de son Créateur pendant la jeunesse, c'est pas toujours facile. Mais dans le crépuscule de la vie, c'est peut-être encore moins facile, parce que, comme il va dire, les facultés physiques, mental, la motivation n'y sont plus. Combien de gens, j'ai entendu dire, bon, à cet âge, je ne vais pas changer de religion, je vais pas me faire baptiser, je vais pas... j'ai déjà vécu ma vie, c'est pas maintenant que je vais placer ma confiance en Jésus-Christ. Beaucoup fonctionnent comme ça. Bien sûr, on peut se tourner vers Dieu à tout moment, jusqu'à la fin, même dans une vieillesse avancée, mais... Dans mon expérience, ça reste une démarche rare. C'est souvent dans ces années de jeunesse et de force où on réfléchit à ces questions et on peut réfléchir à la vérité de la Bible pour la suivre. Ce qui nous amène donc à ce troisième appel. Réjouis-toi de ta jeunesse. Souviens-toi qu'une vieillesse arrive et que c'est donc dans la jeunesse qu'il faut se souvenir de Dieu. Et à cause de cela, prépare-toi. Prépare-toi à cette rencontre avec ton Créateur. Prépare-toi pour ce jugement dont il est question ici dans notre texte. En verset 10, après l'image de cette belle image de la mort, il termine avec le refrain qui revient constamment dans le livre « Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est éphémère, tout retourne à poussière. » Tout est vanité. Donc, où et comment trouver le sens de la vie si tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Et c'est là où le livre va quand même nous donner une réponse. Il y a plusieurs versets tout au long du livre, il a déjà laissé apparaître la réponse. Mais il a attendu jusqu'à ce moment pour dire franchement quel est le sens de la vie, quelle est la réponse à l'énigme qu'il a posée tout au long. Tant d'incohérences dans la vie, tant d'injustices, tant de choses qu'on ne comprenne pas, quel est le sens, comment s'en sortir. Et avant de vous donner la réponse de l'énigme, ces versets nous rappellent que l'Ecclésiaste a quand même réfléchi à tout ce qu'il a dit. Il a conçu ce livre pour nous faire réfléchir, tout comme quelqu'un qui écrit une énigme. Ce livre, c'est pas juste quelqu'un qui passe par un moment de dépression et qui crie sa frustration à l'univers, vanité des vanités, je m'en sors pas. Non, ces paroles ici ont été calculées pour nous rendre sages, pour nous faire réfléchir, pour nous conduire à Dieu. Regardez comment sont décrites les paroles de ce livre à la fin, à cette conclusion. Il dit, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Ensuite, ces paroles sont décrites comme des aiguillons, verset 13, et ensuite des clous qui sont bien plantés. Et trois images de ce livre, de ces paroles de l'Ecclésiaste, très intéressantes. Il dit qu'il s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et c'est ce qu'on a trouvé dans ce livre. Il y a des belles expressions, il y a un temps pour tout, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ça vient de l'Ecclésiaste. Même la phrase « vanité des vanités » est une phrase agréable pour décrire une réalité difficile de la vie. Et cette description de la mort que nous venons de lire, c'est une poésie agréable. Ensuite, il dit que ces paroles sont comme des aiguillons. Vous savez, des aiguillons, c'est ces bâtons avec une pointe pour diriger les bœufs. Donc, ça pique pour faire avancer la bête. Mais des fois, il a fallu notamment ce livre dans la Bible, des fois pour piquer notre indifférence, notre refus des fois de réfléchir aux grandes questions de la vie. Ce livre sert comme des aiguillons pour nous réveiller un peu. Et puis il dit, ce livre sert aussi comme des clous bien plantés, donnés par des paroles données par un seul maître. Et effectivement, il nous faut des repères, des vérités dans la vie qui agissent comme des clous, des pieux sur lesquels on peut fixer des choses, fixer un sens à la vie. Donc l'Ecclésiaste a bien réfléchi pour nous donner ces choses, des paroles agréables, des paroles comme des aiguillons qui nous réveillent, des paroles comme des clous pour nous donner des repères. Tout ça pour lutter contre le grand danger de l'indifférence, où on ne se pose pas ces questions du sens de la vie. Alors, maintenant qu'on a compris que ce livre est bien conçu, bien réfléchi par l'Ecclésiaste, pour nous faire poser des questions, tout comme une énigme nous fait réfléchir, il va donner la réponse. Quel est le sens de la vie? Comment échapper à sa vanité? Versets 15 et 16, les derniers versets du livre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous attendiez peut-être à plus, mais comme des énigmes, des fois la réponse est là. Tout à l'heure, que la voiture roulait en plein jour. Ah oui! Et ici, c'est un peu le même effet. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de milliers de livres, de milliers d'années d'études pour arriver à cette conclusion, à cette réponse, ce sens à la vie, crains Dieu, prépare-toi pour son jugement. Mais effectivement, ça c'est la beauté de ce livre et la beauté d'une bonne énigme, c'est que la réponse, quand on l'entend, elle est évidente. Elle parle à notre cœur. Et c'est vrai, comme nous avons vu, la réalité de Dieu et la réalité d'une destinée éternelle, avec lui ou sans lui, c'est ça qui donne un sens à la vie. C'est ça qui nous aide à traverser, même les moments où on se sent dans le brouillard, où on ne comprend pas tout ce qui nous arrive, où on n'a pas toutes les réponses. La réalité de Dieu, un Dieu créateur, et la réalité de son jugement donne un sens à la vie. Si on enlève Dieu, si on enlève son jugement, effectivement, tout est vanité. Rien n'a d'importance, rien n'a de sens. Ce que vous faites, le bien que vous faites, le mal que vous faites, la chose que vous apportez à ce monde, si vous rendez le monde un meilleur endroit ou si vous le rendez un endroit pire. Oh, s'il n'y a pas de Dieu, si tout est poussière et retourne à la poussière, ça n'a aucun sens. Mais s'il y a un Dieu et s'il y a un jugement, du coup, on peut vivre. On peut vivre avec un sens à la vie. Ce qui donne un sens à notre vie, c'est de vivre pour Dieu et de se préparer à son éternité. Autrement dit, c'est la foi en lui. Craindre Dieu, c'est la manière que l'Ancien Testament souvent évoque la foi, une foi respectueuse dans ce Dieu. Et puis, observer ses commandements, c'est voilà, prendre à cœur sa parole et lui obéir. Et vous savez, le reste de la Bible montre quel est le grand commandement de Dieu. C'est de croire en Jésus, celui qui a envoyé, et de l'aimer. Observer ses commandements, c'est ça, c'est regarder à Jésus et marcher dans ses voies. C'est Jésus qui nous prépare pour la mort et pour le jugement et pour l'éternité. Jésus lui-même a dit cette phrase dans les évangiles, il dit « Celui qui croit en moi et qui croit en ma parole ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. » Telle est l'offre de Jésus pour nous préparer à ce jugement. Parce que lui, comme on a déjà vu un peu illustré par le baptême, Jésus a pris sur lui notre jugement, notre condamnation, le mal que nous avons fait. Il l'a pris sur lui, il a été puni à notre place. Ensuite, il est ressuscité pour montrer que Dieu a agréé ce sacrifice et que Dieu est prêt à donner en cadeau la justice, la perfection à tous ceux qui croient en Jésus. Vous savez, quand Jésus il est mort, il y avait ténèbres. Justement, les ténèbres, comme dans ce passage, évoquent souvent la mort, la vanité. Quand il est mort, quand Jésus est mort, il y avait ténèbres sur toute la terre, dit les évangiles. Et quand il est ressuscité, ça s'est passé quand? Ça s'est passé à l'aurore, comme le soleil qui se lève, Jésus s'est levé d'entre les morts, d'entre les ténèbres. Vous voyez, Jésus a vécu ce chapitre à l'inverse. Nous qui vivons, qui commençons dans la jeunesse, la lumière, l'aurore, et nos corps vont vers les ténèbres, le crépuscule, la mort. Jésus, lui, il est venu et il a vécu le chemin inverse. Dans sa jeunesse, il a endossé notre mort pour 3 jours plus tard jaillir dans la lumière et l'aurore de la vie éternelle. Et si vous avez cette vérité dans votre cœur, si elle est présente dans votre quotidien, vous êtes prêt à vivre et vous êtes prêt à mourir. Terminons par la prière. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons vécus ce matin, qui nous, le baptême, ce message, les chants nous ont rappelé les vérités comme la mort qui nous attendent, mais aussi l'offre de vie éternelle en Jésus-Christ, une victoire sur la mort qui nous aide à comprendre et à faire face à tout ce qui nous arrive dans cette vie. Notre vie, nos vies ne sont pas vécues en vain si elles sont vécues pour toi et avec toi. Et nous te remercions pour ce que Tina a pu montrer de tout cela par son témoignage, par sa joie, son émotion ce matin. Et nous voulons tous prendre cela à cœur, prendre aussi ta parole à cœur. Merci pour l'Ecclésiaste, ce survol que nous avons fait ces dernières semaines, que cela nous aide à vivre dans la sagesse, à bien vivre à ta gloire. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.